J'aimerais parler ce matin sur la guérison divine et nous poursuivons ce sujet avec ce matin peut-être sous cet axe, notre attitude dans la maladie. Ce n'est pas facile de bien réagir quand on est malade. La première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Et c'est très difficile de supporter, subir les maladies. La Bible nous donne un certain nombre de conseils pour savoir comment réagir quand nous sommes éprouvés dans la maladie. Il y a une chose qu'on ne peut pas changer, ce sont les circonstances, les difficultés qui peuvent survenir dans notre vie, mais la Bible nous montre ce que l'on peut changer, c'est notre attitude. Et j'aimerais voir avec vous trois attitudes fondamentales que l'on peut avoir dans la maladie. La première, c'est l'attitude de la foi. Dans Marc chapitre 5, au verset 25, il est écrit « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Voilà le récit d'une femme désespérée suite à une longue maladie et dont les médecins n'avaient aucune solution. Il y avait cette maladie qui ne trouvait aucun soulagement et c'est difficile d'être malade et surtout d'être malade longtemps quand il n'y a pas d'amélioration. Et au contraire, quand vous sortez bien du bureau du médecin et il vous a dit bien, il va falloir faire avec, vous serez toujours comme cela, il n'a pas de parole d'espoir, il n'y a pas de solution et on donne un petit peu des calmants pour soulager la douleur, mais il n'y a pas vraiment d'espoir. Et c'est assez difficile d'encourager quelqu'un qui est malade depuis longtemps parce que la maladie a fait son chemin dans le corps, dans la santé et maintenant c'est difficile de garder espoir avec le temps, avec le mois. Et là, ça faisait des années, 12 années qu'elle n'avait pas trouvé de solution. Alors elle a quand même cherché, et même quand on est malade, on cherche des solutions. Elle a cherché des solutions, bien sûr, auprès des médecins. Et c'est une bonne chose que Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir soigner. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas contre les médecins, bien au contraire, nous apprécions les médecins. Et même nous apprécions les progrès de la médecine. Et je pense que, moi personnellement, je préfère me faire opérer aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Imaginez une opération à cœur ouvert au Moyen-Âge. Vous pouviez faire votre testament avant l'opération. C'était 99,99 chances sur 100 de mourir sur la table d'opération. Il n'y avait pas l'hygiène, il n'y avait pas les outils adaptés, il n'y avait pas la connaissance. Donc, nous bénissons Dieu pour les progrès de la médecine, mais nous savons que c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme, aux médecins, et les capacités, les compétences aussi. Il donne les moyens de pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'est un élément que nous avons, c'est la médecine. Mais nous nous rendons compte que malgré l'évolution et les belles avancées de la science, bien que toutefois, il y a toujours des murs infranchissables. La médecine n'a pas réponse à tout et quelquefois nous nous trouvons face à des maladies dont l'issue certaine est la mort s'il n'y a pas intervention de Dieu parce que ce sont des maladies dont il n'existe pas de remède et les médecins le reconnaissent, nous sommes quand même limités. Et c'est pourquoi, dans sa situation, elle avait donc dépensé, la Bible dit, tout son argent, tous ses biens. Elle avait donc consulté plusieurs spécialistes, des médecins. C'est très cher, ces spécialistes, cette médecine. Il n'y avait pas non plus l'aide que nous avons aujourd'hui avec la sécurité sociale. Parce que si nous devions payer, par exemple, une opération ou ne serait-ce que quelques jours à l'hôpital, ce sont des chiffres très, très élevés pour une personne qui n'a pas d'aide. Ils n'avaient pas d'aide en ce temps-là. Ils devaient dépenser tout leur argent dans cette médecine. Quelle déception quand on voit que l'argent, qui pourtant est une puissance, avec l'argent on peut faire beaucoup de choses, mais en tout cas face à la maladie, quelle déception de voir que l'argent ne peut pas apporter la solution. Cette situation donc s'est dégradée et on peut dire qu'elle a perdu, elle avait perdu tout espoir, elle avait perdu l'espoir un jour d'être guérie. Mais je remarque dans sa grande épreuve et cette triste histoire, il y a quand même une note positive. C'est le verset qui dit, le verset 27, qui dit « ayant entendu parler de Jésus ». Et ça, ça va changer toute la situation de cette femme qui avait perdu tout espoir. Je remarque déjà que sa maladie était grave, mais au moins, elle pouvait quand même entendre quelqu'un lui parler de Jésus. Elle était dans cette capacité de recevoir. Mais encore, il fallait que quelqu'un lui parle. On a parlé samedi, c'était samedi hier, samedi soir, de cette importance de parler autour de nous de ce que Jésus a fait. On ne sait pas qui c'est qui lui a parlé de Jésus, mais en tout cas, il y a eu un témoin qui a dit, mais peut-être viens prier, peut-être que le Seigneur, lui, il guérit les malades, et il peut faire quelque chose pour toi. Donc quelqu'un lui a transmis cette information essentielle en parlant de Jésus. Et aujourd'hui, c'est notre tour de parler de Jésus. C'était dans les années 50, un homme était en train de mourir de la tuberculose, c'est un jeune homme de 19 ans, et il n'y avait pas les moyens de le soigner, c'était en Corée, et il y avait peu de médicaments, peu d'avancées pour soigner ce malade. Et à ce moment-là, il y a une jeune femme qui a eu à cœur de visiter les hôpitaux pour parler de Jésus, tout simplement parler de Jésus. Avec son Nouveau Testament, elle parlait de Jésus et elle disait aussi que Jésus guérit. Et notamment, elle a parlé à ce jeune homme qui allait bientôt mourir. Et elle lui parle de Jésus, de mettre sa foi en Jésus, de croire en lui, qui peut changer sa situation. Vous voyez, c'était une chrétienne, c'était un témoin. Eh bien, cet homme qui était mourant a pris cette parole au mot. Il a cru que Jésus pouvait guérir. Il a reçu Jésus dans son cœur et en même temps, il a reçu la guérison dans son corps. Il est ressorti de l'hôpital en pleine santé et il a voulu bien sûr remercier ce Seigneur, ce Sauveur qu'il avait délivré de cette maladie. Et il a acheté une Bible et il est devenu prédicateur de l'Évangile. C'est Yonggi Cho donc, qui est devenu un prédicateur, pasteur d'une église, une des églises les plus grandes du monde par la suite. Mais on n'a jamais su qui était cette jeune femme. Et lui-même, Yonggi Cho, qui a voulu la remercier un jour, eh bien, il n'a jamais su qui c'était ce témoin en tout cas qui l'a mis en contact avec la personne de Jésus, et c'est Jésus qui a fait tout le travail dans la vie de cet homme. Donc on ne sait pas, frères et sœurs, quand nous parlons de Jésus, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour cette personne, qu'est-ce que Dieu va en faire, mais notre rôle, notre responsabilité, c'est de témoigner, et comme cette femme a reçu l'Évangile, eh bien de transmettre cette bonne nouvelle autour de nous, et c'est une joie de voir ce que Jésus peut faire dans les vies. Alors quand on est au verset 27, quand elle entend parler du Seigneur, il y a comme un espoir qui va germer dans son cœur, cet espoir que, eh bien, si Jésus a guéri d'autres personnes, si Jésus l'a fait pour... il y avait des impotents, il y avait des démoniaques, il y avait des personnes qui étaient atteintes de diverses maladies, eh bien, elle s'est dit, ben, le Seigneur peut le faire pour moi. Elle a pris cette parole au mot, elle a pris avec sa foi simple cette parole de vie, cette parole de foi. Mais je remarque quand même que tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Elle a l'élément essentiel qu'il faut qu'elle vienne à Jésus. C'est important. Mais je remarque deux obstacles qui auraient pu l'empêcher d'atteindre son objectif. Et vous vous remarquerez qu'une fois qu'on a témoigné à quelqu'un, ce n'est pas encore gagné. Il faut que la personne fasse ses pas. Et c'est dans ces pas-là qu'il y a des obstacles. C'est pourquoi nous vous encourageons à persévérer et à avancer. Quels étaient les obstacles? Le premier facteur, c'était sa propre situation. Donc, elle était atteinte d'une perte de sang. Et selon la loi, elle était qualifiée d'impure et elle ne pouvait pas avoir des contacts avec la foule comme cela. Elle devait rester confinée chez elle. Ça lui était imposé par la loi. Premier obstacle, il fallait vaincre, entre guillemets, sa religion. Il fallait qu'elle dépasse ses croyances qu'on lui avait inculquées depuis son enfance. C'est un véritable obstacle parce que ce sont des forteresses qui sont là dans notre esprit et qui peuvent nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Alors, elle a pris sa première victoire, elle a dépassé ses propres croyances, les convictions qu'elle avait reçues, et elle a cru qu'elle pouvait quand même s'approcher de Jésus dans cette situation. Mais ça n'était pas fini. Alors qu'elle approche, elle a pris sa première victoire, elle a fait son premier pas, mais autour de Jésus, il y a une foule. Et elle ne peut pas s'approcher de lui directement. Il faut qu'elle se fasse, qu'elle se fraye un chemin à travers la foule. Si elle était rentrée à la maison à ce moment-là, elle serait passée à côté de sa guérison. Il fallait qu'elle se fraye le chemin, qu'elle persévère, qu'elle ne se laisse pas arrêter par les circonstances défavorables. Il y avait trop de monde, on ne pouvait pas rentrer. Un petit peu comme ces quatre hommes qui amènent un malade à Jésus. Il y avait tellement de foule, ils ne pouvaient pas rentrer, mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont cherché une solution, ils ont ouvert le toit et ils ont fait descendre le paralytique par le toit. Il y avait des obstacles, il y avait comme une opposition, mais avec l'imagination, les idées, on peut trouver des solutions. Et elle se dit dans son cœur, Jésus est à quelques mètres, il y a la foule, mais elle se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. C'est une, on va dire, c'est la foi mise en pratique. C'est pour ça que le premier point que je parle dans la maladie, notre attitude dans la maladie, c'est la foi. La foi, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Certainement, cette femme, dans sa démarche, elle n'avait pas du tout l'intention de se faire connaître. Elle voulait rester, entre guillemets, incognito. Elle voulait que ça soit entre elle et Dieu. Elle a fait cette prière dans son cœur. Et elle se serait bien contentée de toucher son vêtement, être guérie. Personne ne l'a vu ni connu. Elle rentre à la maison, elle est guérie. Ça ne s'est pas passé comme elle pensait. Mais néanmoins, elle a fait cet acte de foi. La foi, en fait, est ce bras qui permet de s'approprier ce que Dieu donne. C'est la foi. Je le reçois par la foi. Je vous donne un autre exemple. Lorsque Jésus est mort à la croix, nous croyons qu'il est mort pour tous les hommes. Mais c'est seulement par la foi que nous recevons que Jésus est mort pour mes péchés. Par la foi, je le reçois et je suis sauvé. Mais une autre personne ne croira pas, eh bien Jésus est quand même mort pour elle, mais elle ne croit pas, donc elle n'active pas sa foi pour recevoir le pardon de ses péchés, et donc elle meurt dans ses péchés. Elle a fait un petit peu la même chose pour la guérison, elle croyait que Jésus guérit, et par la foi, elle s'est appropriée la guérison que Jésus était en train de faire pour tous, eh bien elle l'a reçue par la foi, en tout cas pour sa vie personnelle. La foi, c'est aussi espérer quand tout semble perdu, qu'il n'y a pas d'espoir. J'aime ce texte de Paul dans Romains chapitre 4 et au verset 18 qui concerne Abraham, mais qui est une belle définition de la foi lorsqu'il est dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est qu'il a continué à espérer alors qu'il n'y avait aucune raison d'espérer encore. C'est la foi qui dépasse l'intelligence, qui dépasse la religion, la simple croyance, et qui est spirituelle. Parfois, sur le chemin de la foi, vous serez seul à croire, parce que les autres ne croiront plus pour vous. Personne ne vous suivra sur ce chemin. Et des fois, on est un peu découragé. Des gens nous disent « Mais toi, tu crois encore avec tous les problèmes qui t'arrivent, tous les difficultés, tu crois, mais pourquoi Dieu ne t'a pas répondu ?» La réponse de Dieu, ça c'est sa part, mais nous, notre part, c'est de croire. Et jusqu'à ce qu'il réponde, en tout cas, nous devons croire. Et c'est comme ça qu'a fait Abraham. La réponse n'est pas venue tout de suite, elle n'est pas venue même un an ou deux ans après, elle est venue des années plus tard. Mais en tout cas, il espérait contre toute espérance. Et la Bible dit qu'il crut et il devint. Il crut et il devint, c'est-à-dire il est devenu ce qu'il a cru qu'il deviendrait, c'est-à-dire le père d'une grande nation. Il a vécu vraiment les promesses de Dieu. Alors c'est plus facile de croire pour les autres que de croire pour soi-même, et de prier pour quelqu'un que de prier pour soi-même quand on est malade. Parce que quand on est atteint par la maladie, je l'ai dit, le moral est affecté, et nous avons souvent moins de foi pour nous-mêmes que pour les autres. Mais en tout cas, cette femme, je remarque qu'elle a eu la foi pour elle-même, pour son cas personnel, pour sa situation. Et lorsqu'elle l'a fait, donc croyant, évidemment, Jésus était entouré de la foule, donc croyant qu'elle était inconnue, que Jésus ni les disciples ne se rendraient compte de rien, elle a réussi à toucher le bord de son vêtement, mais Jésus a ressenti dans son esprit que quelqu'un l'avait touché. On ne peut rien cacher à Jésus. Et il a demandé, mais qui m'a touché ? Les disciples ne comprennent pas, mais ils lui disent, mais enfin, la foule t'entoure et tu demandes, mais qui m'a touché ? Oui, parce qu'il a senti qu'une force, il dit, une force est sortie de moi et je sais qu'il y a eu une guérison. Quelqu'un m'a touché avec foi et il y a eu une guérison. Cette foi, donc, a déclenché quelque chose dans le monde spirituel qui a permis bien, une avancée dans sa vie. La femme, donc, découverte, se dénonce et dit « Oui, mais c'est moi, je suis venue et j'ai touché le bord du vêtement. » Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. » Mais ce que je remarque, c'est que Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée. » Il y avait un élément chez cette femme qui était encore plus important, en fait, que sa maladie, c'était le salut de son âme. Elle ne le savait peut-être pas, elle n'avait pas encore vraiment réalisé, mais que Jésus voulait sauver son âme, même avant de la guérir. Et en fait, dans sa foi, elle a eu les deux. Elle a reçu le pardon de ses péchés, elle a été sauvée, pardonnée, et en plus, elle a reçu la guérison. Mais le plus important des deux, c'est la foi qui sauve. Parce que vous pouvez être guéri, mais si vous n'êtes pas sauvé de vos péchés, oui, vous êtes guéri, mais ça, c'est que terrestre. Tandis que le salut, c'est éternel. C'est-à-dire que vous êtes guéri, mais si vous mourrez, même guéri, vous mourrez, vous êtes perdu pour l'éternité. Donc, elle a reçu le salut de son âme et la guérison. Certains cherchent uniquement Dieu pour la guérison. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils cherchent Dieu. D'ailleurs, beaucoup venaient à Jésus pour la guérison seulement. Mais Jésus veut les entraîner plus loin et leur dire « Oui, tu as besoin d'une guérison ». Mais tu as un plus grand besoin parce que tu es pécheur et séparé de Dieu, tu as besoin du salut de ton âme. Tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu, tu as besoin d'être pardonné de tes péchés. Et c'est pourquoi Jésus le donne gratuitement et c'est un grand miracle. Alors Jésus a enseigné sur la foi, si vous lisez Marc chapitre 11, verset 24 par exemple, il y a un bel enseignement ici, c'est une condition nécessaire pour recevoir, il dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je pense que cette femme, dont nous avons lu le récit, a vécu ce verset. Elle croyait qu'elle avait reçu, elle disait « si je touche, je serai guérie ». Elle avait une ferme conviction qu'en s'approchant du Seigneur, bien, sa guérison était là. Donc elle le croyait tellement, c'était vraiment réel dans son cœur. Il y a trois temps dans ce passage. Au présent, croyez, parce que nous croyons aujourd'hui. Nous mettons notre foi en Dieu maintenant. Ça, c'est le présent. Est-ce que nous allons continuer à croire dans le présent ? Ça, c'est la foi de tous les jours. Croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est du passé. Vous l'avez reçu, c'est quelque chose d'accompli. C'est quelque chose qui est là spirituellement dans notre cœur. Et puis, le futur, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez tout à l'heure, vous le verrez demain, vous le verrez dans un mois. Vous ne savez pas quand, mais en tout cas, vous croyez maintenant, c'est déjà là spirituellement et le temps de Dieu maintenant, il va manifester quand il le voudra. Ça, c'est là. On dira que le temps de Dieu, c'est le futur qui va manifester cette bénédiction. Alors, Jésus répond, bien sûr, à cette femme qui est venue vers lui, mais il y a deux questions qui nous préoccupent le plus, auxquelles, Jésus ne répond pas directement. La première question qui nous préoccupe, c'est quand est-ce que tu vas le faire, Seigneur ? Quand est-ce que tu vas guérir? Quand est-ce que tu vas agir? Et là, nous n'avons pas de réponse. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que tu vas le faire? C'est les deux choses qui nous travaillent, auxquelles nous pensons, et nous disons, mais Seigneur, quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas agir? Comment tu vas faire? Or, ces deux choses-là, en fait, appartiennent à Dieu. C'est deux choses, deux paramètres dont nous n'avons pas véritablement des moyens d'action. Par contre, ce qu'il nous demande, le Seigneur, c'est simplement de croire dans ces moments-là, de croire que Dieu va le faire. Alors, nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il va le faire en son temps et par sa grâce. Ça, c'est notre part. Je reviens à Abraham dans Romains 4, 19. « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Alors, il pouvait se dire, « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire? Ma femme est déjà bien trop âgée, elle est stérile. Et puis, les années passent et tu n'agis pas, toujours pas. Et comment est-ce que tu vas faire? Elle ne peut pas avoir d'enfants et elle est trop âgée, donc c'est impossible. » Et ces deux questions, on peut les mettre dans tous les sens, y réfléchir, y passer des nuits entières. On n'aura pas les réponses comme ça. Donc, il faut simplement les abandonner à Dieu. « Seigneur, je t'abandonne le temps, c'est toi qui agiras quand tu voudras. La manière dont tu vas faire, je t'abandonne ce sujet parce que je ne sais pas, mais je te fais confiance. » Et si nous réussissons à nous décharger de ces deux problèmes, qui en fait, c'est les problèmes de Dieu, ce n'est pas les nôtres, alors il ne faut pas s'en charger, eh bien, nous nous concentrons sur la foi et nous disons, « Seigneur, je crois. Ce que tu dis, je le reçois, alors je le verrai s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tenons-nous là, frères et sœurs. Méditons ce passage de Marc 11, 24 pour bien le saisir, et parce que c'est ça qu'il nous demande de faire. Le deuxième aspect que nous pouvons avoir dans la maladie, c'est l'obéissance. On a parlé premier aspect de la foi. Le deuxième aspect qu'il nous faut avoir dans la maladie, c'est l'obéissance. Un jour, Jésus a été interpellé par 10 lépreux. Vous connaissez sans doute ce passage. C'était 10 hommes atteints d'une lèpre qui les condamnait à une mort lente. C'est une maladie de peau qui allait générer en eux une mort lente par évolution de la maladie. Bien sûr, il n'y avait pas de médicaments pour les soigner à l'époque. Ces gens étaient condamnés. Donc, ils étaient dans cette souffrance de la maladie, sans espoir, moralement abattus. D'autre part, ils n'avaient pas les contacts que nous avons avec la société. Ils étaient reclus entre lépreux, donc tous entre malades. Ils vivaient sans encouragement, parce que quand vous êtes avec des malades qui sont avec d'autres malades, c'est difficile de se dire, ah bon, allez, tiens bon, hein, on va y arriver, quelque chose va se passer. Il n'y a pas tellement de paroles d'encouragement dans ces cas-là. Donc, entre malades, ils ne trouvaient pas de réconfort. Et il s'est passé quand même un miracle dans leur situation. C'est un petit peu comme cette femme à la perte de sang. Parce que, exclus de la société, loin de la ville, la Bible dit qu'ils ont entendu parler de Jésus. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? On ne sait pas. Mais il y a eu des gens qui leur ont parlé du Seigneur, certainement à distance, en leur disant, vous savez, dans votre cas, il y a quand même Jésus qui peut faire quelque chose. Ils leur ont parlé de Jésus. Toujours l'importance du témoignage, en parler aux autres. C'est tellement important de communiquer Jésus, de donner un évangile, de distribuer un prospectus, une invitation. Il y a un jour, une personne qui est venue dans notre église, en fait, elle est venue avec un prospectus qui a été glissé dans son sac. Elle était dans une réunion de formation, dans un centre de formation, je ne sais pas, mais il y avait un chrétien là. Je ne sais pas si le chrétien il a mis des prospectus dans tous les sacs comme ça, mais en tout cas, cette personne-là, elle a trouvé un prospectus dans son sac et grâce à ce prospectus, elle a vu l'adresse, elle est venue et puis voilà, elle a fait son chemin au milieu de nous. Ben, que Dieu soit béni et on est des témoins, alors que ce soit par les prospectus, les invitations, parler. Voilà, tout ça, c'est des choses importantes. Et ces lépreux sont venus donc vers Jésus, obligés de se tenir à distance. Ils lui ont parlé de loin et ils ont crié « Jésus, Jésus, maître, aie pitié de nous ». Donc, ils avaient compris que Jésus pouvait quand même les guérir dans leur situation. Et c'est leur dernier espoir. Alors, ce que je remarque ici, c'est que Jésus ne prie pas pour eux. Jésus leur dit simplement, c'est Luc 17, 14, « Dès qu'il les eut vus, Alors, la Bible dit même pas que Jésus s'est approché, il les a laissés à distance. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et tout simplement, ils sont partis sur cette parole-là. C'est-à-dire, c'était une question d'obéissance. Il fallait simplement faire ce que Jésus a demandé. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus ne s'approche pas, il ne prie pas pour eux, il ne leur impose pas les mains, mais les lépreux pouvaient être déçus et se dire, mais nous sommes venus chercher la guérison. Jésus ne prie même pas pour nous. Il nous demande d'aller directement voir les sacrificateurs. Mais ils étaient encore malades quand ils sont partis. Ils étaient atteints de lèpre, ils étaient en train de mourir. Simplement, c'est leur obéissance à cette parole de Jésus qui a permis qu'en chemin, ils se rendent compte, ah, je suis guéri. Et il n'y en a qu'un seul d'ailleurs qui est revenu rendre gloire au Seigneur. C'était en plus un Samaritain, un étranger. On a du mal à comprendre combien l'obéissance est importante aux yeux de Dieu, parce que finalement, nous sommes assez désobéissants, entre guillemets. D'ailleurs, depuis l'enfance, souvent, c'est plus facile de désobéir que d'obéir. On doit apprendre l'obéissance, mais la désobéissance, ça vient tout seul. Mais dans 1 Samuel 15, pour vous montrer comment Dieu aime l'obéissance et qu'il bénit l'obéissance, Samuel dit à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. » Alors dans ce texte, on voit que l'obéissance est placée sur un rang très élevé. Et il dit même que c'est au-dessus des sacrifices. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus des sacrifices? Parce que les sacrifices, c'était le moyen d'adoration par excellence. C'est le moyen de pardon des péchés. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans le temple, d'apporter des sacrifices pour exprimer notre amour pour Dieu. Eh bien, Dieu dit que pour lui, l'obéissance a plus de valeur que même des sacrifices. Et on sait combien ces sacrifices sont importants pour Dieu. Alors, ça nous montre que simplement obéir à ce que Jésus demande pour nous, c'est décisif. Ce principe est vraiment attesté dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Naaman. C'est un général syrien couvert aussi de lèpre et qui avait reçu toute la confiance du roi de Syrie. C'était un homme vaillant, un homme fort, mais qui était malade. En fait, il avait tout pour réussir, mais il était malade. C'est comme ça, la maladie, ça frappe. En aveugle, ça peut frapper des jeunes, des personnes âgées, mais ça peut frapper des riches comme des pauvres. Et il sait qu'il va mourir, il lui reste peu de temps à vivre, mais la délivrance, la guérison va venir par une parole d'une petite fille qui avait été enlevée du peuple d'Israël parce qu'elle avait été déportée. Ce général syrien avait donc déporté cette petite fille, l'avait ramenée chez lui, c'était son esclave. Et cette petite fille, elle a cette foi simple d'enfant, elle lui dit « Mais si mon maître était en Israël, il serait guéri, il serait guéri. » Elle a une foi simple que Dieu peut changer sa situation. Cette foi d'enfant que Jésus nous demande d'avoir. Et cette petite fille va être un instrument de bénédiction. Bon, certainement que l'homme, au début, il n'a pas trop pris considération de cette affaire. C'est sous l'impulsion de sa femme qu'il a encouragé. Et puis, il est parti avec tout son or, son argent, pour acheter sa guérison. Parce qu'il s'est dit, pour que je sois guéri, il faut au moins que ça me coûte quelque chose. Alors il est parti avec des biens, mais de l'or considérable. Il est allé voir le roi qui lui a dit « Je ne peux rien faire pour vous ». Mais c'est le prophète Élisée qui pouvait intervenir. Mais lorsque Naaman, la Bible dit qu'il arrive avec son char, avec ses biens, son or, son argent, et qu'il fait appeler le prophète pour qu'il sorte et qu'il prie pour lui, le prophète ne sort même pas de la maison pour prier. Et là, le général est déçu. Alors, Élisée dit seulement à un serviteur, « Tu vas te faire dire à ce général, lave-toi 7 fois dans le fleuve du Jourdain et tu seras guéri. » L'obéissance à la parole. Et à ce moment-là, le général est piqué d'orgueil. Il se dit, « Mais comment ? Le prophète n'est pas sorti. Il n'a pas même pas prié son Dieu. Il n'a pas agité les mains. » Vous voyez comment on a des conceptions. Il s'attendait à recevoir la guérison d'une certaine manière. Il pouvait même payer, il était prêt à offrir de l'argent. Il n'a même pas fait ses actes religieux. Et il me dit à moi d'aller me plonger dans l'eau du Jourdain. Mais Il se prend pour qui ce prophète? Qui est-il? Et là, c'était un obstacle pour lui parce qu'il était sur le point de retourner dans son pays sans sa guérison, donc. Et il serait mort dans sa maladie. Et ce sont ses serviteurs qui, eux, sont habitués à se soumettre à des supérieurs. Ils sont habitués à obéir à des ordres, tout simplement. Et ils disent, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ils te demandent quelque chose de si simple. Il suffit d'obéir à ce qu'ils demandent et tu verras bien ce qui va se passer. Et c'est grâce à ses serviteurs, tout simplement l'obéissance. L'obéissance, obéir à ce que Dieu demande, eh bien, grâce à cette parole de sagesse, il est resté. Il a fallu qu'il s'humilie, qu'il enlève ses vêtements devant ses serviteurs. Certainement, il n'en avait pas très envie. Et il a dû se laver 7 fois. Alors, c'était de l'eau un peu boueuse, c'est vrai, parce qu'il dit, mais moi, j'aurais mieux aimé me plonger 7 fois dans les fleuves de mon pays, qui sont beaucoup plus propres que cette petite eau-là. Le Jourdain, c'était petit pour lui. Et cette eau était un peu boueuse, alors il a un peu honte. Et puis surtout qu'il faut qu'il obéisse jusqu'au bout. C'est ça aussi qu'on ne comprend pas souvent. C'est qu'au bout de 3 fois qu'il s'est plongé, il ne voit aucun changement. Il faut qu'il tienne bon jusqu'au bout. Et il ne faut pas que sa tête lui dise, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne sert à rien, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Il fallait qu'il aille jusqu'à la 5e fois, 6e fois. Il ne fallait pas qu'il s'arrête à la 6e fois et qu'il se décourage et qu'il dise, voyez, il n'y a même pas d'amélioration. Si Dieu allait me guérir, il aurait au moins fait quelque chose. Rien. Et donc, c'est la 7e fois. Il a obéi jusqu'à la 7e fois. Et lorsqu'il est ressorti de l'eau, la Bible dit que sa chair est redevenue comme la chair d'un bébé, d'un enfant, comme s'il n'avait jamais eu de maladie. Ce que Dieu fait est parfait. Alors, simplement l'obéissance. L'obéissance. Le manque, et je dirais même l'obéissance partielle ne suffit pas. Il aurait pu obéir à 90%, faire les 3/4 de ce qui était demandé, et il serait passé encore à côté de sa guérison. Je termine avec un dernier point, c'est la reconnaissance. Quelle attitude dans la maladie? La foi, l'obéissance, et puis la reconnaissance. La reconnaissance parce que dans l'histoire de Job, qui est très instructive, on voit ici un homme intègre qui aime Dieu, qui le sert, qui fait des prières, mais qui est frappé de plusieurs fléaux qui vont atteindre sa vie. D'abord, ses troupeaux sont détruits. Ensuite, ses biens, parce que les maisons vont s'effondrer, mais ses enfants vont mourir dans l'effondrement de sa maison. Et par-dessus tout cela, il est atteint d'une maladie de peau qui le fait souffrir et qui le démange terriblement, au point qu'il se gratte avec des débris de poterie. Et par-dessus encore tout cela, sa femme, qui est complètement découragée par la situation, on peut la comprendre, mais qui se tourne vers Job en disant, tu vois, Dieu n'a pas agi, elle lui dit, mais tu restes intègre en ton Dieu, mais maudit Dieu, et meurt. Et il n'a donc plus personne à qui se raccrocher sur cette terre, puisque ses enfants sont morts, sa femme ne comprend pas la situation, dit des paroles dures, et là c'est difficile. C'est difficile de rester ferme quand la maladie frappe parce que, voyez, là, on parle de l'histoire d'un couple. C'est Job et sa femme. C'est l'homme qui est malade ici. Mais parfois, le couple est éprouvé quand il y a une maladie dans le couple. Il va falloir tenir bon dans l'épreuve. Quand il y a un des deux qui est malade et qui est malade longtemps, il va falloir persévérer dans l'amour, dans la communion, pour que ce couple tienne bon, uni dans l'épreuve. Mais souvent, la maladie peut éprouver les fondations d'un couple. C'est pour ça qu'il va falloir aussi bien rester ferme dans la parole de Dieu, ne pas se laisser contaminer par les pensées de découragement ou de divorce, de séparation, parce que les choses vont mal, mais de rester ferme. Et ce n'est pas facile. Et Job a eu cette parole, donc c'est dans Job chapitre 1, verset 21, qui, pour nous, est une parole audacieuse, mais qui est le chemin de la reconnaissance dans la maladie. Et il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Alors il dit « Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et quand est-ce qu'il dit cela? Il dit cela au cœur de sa maladie. Il ne rejette pas cette pensée, il ne la met pas de côté. c'est un enseignement qu'il nous faut aussi cerner, que nous pouvons continuer à bénir le Seigneur même si nous sommes malades. On a vécu cette expérience il y a quelques années, c'était en 2008 lorsque Laurence est tombée malade et la maladie commençait à gagner. Il y avait 3 maladies qui étaient conjuguées pour la faire souffrir au point qu'elle avait du mal à se mouvoir et elle souffrait dans tout son corps. Et puis la maladie lente a évolué. Au début, on croyait que ça allait durer peut-être 2-3 mois, 6 mois, mais les mois passent. Et les médecins nous disent, voilà, c'est comme ça, il faudra faire avec, etc. Et les médicaments, elles-mêmes, arrivaient à peine à la soulager. C'était de l'opium, de la morphine, qui finalement soulageait légèrement, mais la douleur était là, nuit et jour, pendant tous ces mois, une année. Et au bout de 2 années, on était vraiment, enfin moi personnellement, j'étais vraiment éprouvé, découragé. Laurence a toujours été très ferme dans sa foi à ce moment-là. Mais à ce moment-là, une pensée nous est venue de Dieu qui nous a dit, bien, louez-moi pour la guérison, louez-moi pour la guérison. Allez. Et on a commencé à glorifier le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel. Et on a glorifié Dieu. Mais nous, dans notre esprit, en tout cas moi, je pensais que, bon, ben, ça y est, merci Seigneur, louez-moi pour la guérison c'est là, c'est tout de suite. Mais ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, c'était dur, franchement, c'était dur de louer Dieu, de bénir Dieu dans la maladie. C'est difficile, mais je pense que ça nous a porté quand même, ça nous a aidé à traverser ce moment. 6 mois, 10 mois, 11 mois, ça a duré plus d'un an, et du jour au lendemain, après, le Seigneur est intervenu, et il a agi puissamment pour que Laurence soit guérie. Nous ne savions pas quand est-ce qu'il allait le faire, mais simplement, il nous a appris à le bénir et à lui rendre grâce, même dans la maladie. Ça, nous pouvons le faire, même si c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, je pense à un dernier verset pour vous montrer que nous devons rester reconnaissants quand tout va bien, comme quand les choses sont difficiles. On va le lire ensemble pour terminer. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Alors, Paul écrit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce quand tout va bien. » Ah, « Rendez grâce le dimanche matin. » Non. « Rendez grâce, en tout, oui, mais en toute chose, ça veut dire quand tout va mal. Quand tout va bien, quand tout va mal. » En toute chose. En toute chose, c'est difficile. En toute chose, on va rendre grâce quand on a une bénédiction. On va rendre grâce quand on a eu une réponse à nos prières. Mais il nous dit ici, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Rendez grâce en toutes choses. Et il continue, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu et ce n'est pas facile. C'est plus facile à lire qu'à faire. Eh bien, c'est à nous, par la foi, de le mettre en pratique. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais elle s'appuie sur la parole de Dieu. Retenez ces trois simples éléments que nous pouvons faire quand nous sommes malades. Nous pouvons croire que Dieu guérit, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Tout-Puissant. Nous pouvons obéir à sa parole et faire ce qu'il nous demande. Et nous pouvons lui rendre gloire et continuer à le bénir malgré la maladie. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation ce matin, mais je sais que plusieurs sont éprouvés et c'est pas facile. Mais on va prier quelques instants le Seigneur. En tout cas, mettons notre confiance en lui. Ni les hommes, ni la science, malgré ses progrès, n'aura réponse à tout. Nous voulons continuer à croire, nous voulons mettre notre foi dans le Seigneur et dire « Oui Seigneur, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais nous savons que tu tiens la situation entre tes mains. » Nous voulons garder cette attitude d'obéissance et la reconnaissance, la louange qui revient à notre Dieu, ça c'est notre part en fait. Les 3 éléments que j'ai partagés, c'est notre part. La part de Dieu, c'est la guérison. Notre part, c'est simplement de croire.